Bonjour, c'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui, nous allons la consacrer aux orgues et organistes de la région. Alors ce n'est pas impossible d'inviter tout le monde, mais nous nous sommes approchés de trois de ces musiciens. Simon Péguiron, qui enseigne la musique au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds, il est titulaire de l'orgue de la Collégiale à Neuchâtel, et puis il a été l'un des élèves de Guy Beauvais. Nous serons également en compagnie de Georges Catin, qui dans les années 90 a sorti trois livres sur les orgues et organistes dans le Jura, un travail qui a été honoré du tuyau d'or décerné par l'Association française Connaissances et Pratiques de l'orgue. Et enfin, nous sommes avec Benoît Berberat, titulaire de l'orgue de l'église Saint-Pierre à Pontruy. Il a enseigné cet instrument à beaucoup d'élèves, il a joué sur beaucoup d'autres instruments en Romandie jusqu'à Genève, et c'est avec lui que nous commençons pour évoquer l'orgue de Pontruy qui a été inauguré il y a pile 200 ans, en 1814.
On peut se prendre à imaginer quel était l'état de Pontruy à la fin de 1814, après le désastre de Napoléon. Il ferait bon pouvoir remonter dans le temps et puis vivre ce que les Brentrutins ont vécu à la fin de cette année terrible. D'ailleurs, on a dans les archives de la paroisse, on n'a pas retrouvé de traces de grandes fêtes qui a été faites autour de cette installation. Je pense que l'ambiance devait être assez morose à la fin de l'année 1814. Quoi.
Pourtant, l'orgue, l'instrument est tout de même assez grandiose.
Ça oui, absolument. Puis en plus ici, dans Saint-Pierre, c'est un lieu magique au point de vue de l'acoustique. Hein. Et c'est une acoustique, c'est une des plus belles de Suisse romande que je connaisse. Quoi. Donc il a été installé en 1814, après la fin du 19e siècle. Comme la mécanique était un peu fatiguée, ils ont installé le système pneumatique qui était en vogue à l'époque. C'est souvent ce qui s'est produit dans l'histoire de l'orgue, c'est qu'on a un peu suivi les découvertes techniques qui se sont succédées aux différentes époques. Et puis après, en 1950, la transmission pneumatique étant usée, on a installé ce qu'on installait à l'époque, c'est-à-dire des transmissions électriques, depuis les touches jusqu'au tuyau. Donc il a subi deux grandes transformations là. Puis en 1984, quand ils ont refait l'église ici à Saint-Pierre, ils ont décidé de remettre l'orgue dans son état originel, quoi. Et c'était possible parce que dans les archives de la paroisse, il y avait encore le devis d'origine, ce qui est extrêmement rare, ça. La plupart du temps, ces papiers se perdent.
Des orgues, vous en connaissez beaucoup, vous en avez joué beaucoup à travers la Suisse romande. Celui-ci est un petit peu votre orgue, votre instrument de cœur, Benoît Berberat.
Alors des orgues, oui, j'en connais énormément parce que ici, il y a dans le Jura une chose importante pour les paroisses, c'est la commission des orgues. J'avais fondé ça en 1972 avec l'abbé Germain Girardin, que beaucoup de gens connaissent, et Françoise Fromeja. Et encore, il y avait Jean Grépin, l'organiste de Moutier, puis Pierre Plon qui était à Boncourt, et Laurent Vimin qui est encore au bois maintenant. On avait fondé cette commission des orgues parce qu'à l'époque, on sortait du concile et les paroisses. C'est toujours important de se resituer dans l'histoire pour comprendre. À la sortie du concile, toutes les paroisses du Jura avaient dû un petit peu modifier le mobilier liturgique. Il avait fallu mettre un autel devant, le tabernacle était de côté, il y avait l'ambon. Donc du coup, les paroisses ont profité de restaurer leur église, la moderniser, et puis les orgues étaient dans un mauvais état parce que toute la génération des orgues qui avaient été installés au début du XXe siècle, ben, ces orgues-là, ils étaient dans un mauvais état parce que dans les années 1930, 40, 50, comme ça, on avait commencé à chauffer les églises. Et on a chauffé les églises de manière désastreuse avec des chauffages qui étaient beaucoup trop rapides. On chauffait le dimanche matin, on mettait de l'air qui était extrêmement chaud et sec, et ça a tué tous ces orgues du début du XXe siècle, ce qui fait que les paroisses ont remis des nouveaux instruments.
Aussi grand soit-il, un orgue est tout de même fragile.
Ah oui, parce qu'il y a énormément de bois, hein, il y a énormément de parties en bois. Donc les changements de température, c'est pas trop grave, mais ce qui est grave, c'est la sécheresse, quoi. Si on chauffe avec de l'air qui est trop sec, de Lémon, par exemple, a été abîmé. Clovelly, la joue, que j'ai connue dans mon enfance aussi, il a été abîmé par le chauffage. Enfin bref, donc pour en revenir à cet orgue ici, donc des orgues, dans le cadre de la commission des orgues, on s'est occupé de tous les instruments du Jura, donc je les connais tous. Et puis en Suisse romande, j'en connais beaucoup, puis j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu des dizaines, enfin une quantité incroyable d'instruments. Et celui-ci me plaît beaucoup parce que, oui, il a un caractère incroyable.
La musique.
Georges Catin, on est ici à l'église Saint-Pierre à Port-en-Truy. Alors vous qui connaissez bien les orgues de la région, qu'est-ce qu'il vous dit justement cet orgue à une heure, à trois quarts d'heure du début de votre concert ?
Eh bien, il me dit de rester prudent, que le concert n'est pas encore joué, donc il faut toujours être un petit peu dans l'expectative, mais quand même pas trop, parce que l'expectative, c'est bien, mais c'est un peu paralysant. Donc, avant un concert, il vaut mieux se libérer, il vaut mieux penser à des choses drôles, aimables, et puis considérer que l'orgue est un ami, un partenaire, et non pas forcément un concurrent ou un ennemi qui nous veut... invariablement du mal.
Alors justement, Georges Catin, vous êtes, vous, un grand passionné des orgues, notamment des orgues du Jura. Comment est arrivée cette passion chez vous ?
Oh, c'est assez ancien. Je me souviens simplement d'avoir entendu l'orgue quand j'étais enfant avec mes parents à la messe. Et puis, j'étais fasciné par cet instrument, par ses vibrations, ses ondes sonores, notamment les graves, les basses, qui sont très spectaculaires à l'orgue, peut-être plus que sur n'importe quel autre instrument. Et puis, quand j'étais en âge de raison, que j'ai commencé à faire un peu de piano sous la dictée paternelle, je me suis dit, bon, le piano, c'est bien, mais ce qui m'intéresse comme instrument à clavier, c'est l'orgue, pour retrouver justement ces sensations d'enfance, mais plus que ça, pour retrouver cet univers qui me fascinait, ces sons qui s'expriment dans la fixité, mais en même temps dans une grande douceur, ou alors tantôt dans une grande puissance, dans un déchaînement de force. Alors, l'orgue, c'est multiple. On a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de palettes sonores, toutes sortes de palettes de nuances. Et c'est vrai qu'on dit parfois l'orgue est un orchestre à lui tout seul, et je suis quelque part en tant qu'organiste le chef d'orchestre. Alors relativisons, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que l'orgue ouvre à des perspectives très vastes. C'est le plus complet et le plus, disons, original de tous les instruments qu'on appelle aujourd'hui mécano-acoustiques. Je ne parle pas évidemment des instruments électroniques qui ont ouvert des voies extraordinaires ces dernières décennies, mais si on veut rester dans la production mécanique, entre guillemets, de son, eh bien, l'orgue est ce qu'il y a de plus complet.
Thank you. dans les années 90, vous écrivez trois ouvrages, hein, je crois, sur les orgues et les organistes du Jura. C'était justement pour faire un recensement, pour qu'il y ait une trace écrite de cet instrument qui, gentiment, dans certains cas, laissait la place à l'électronique, à la musique électronique.
Oui, à l'époque, il y avait évidemment un risque de voir certains instruments à tuyaux de mauvaise qualité, disons, ou dont la qualité n'était pas reconnue, faire la place à ce qu'on appelait des électriums ou des orgues électroniques qui, à l'époque, il faut le dire, étaient de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, un orgue électronique de prix, disons, de valeur, est un instrument qui peut induire l'auditeur et le bon auditeur dans l'erreur, c'est-à-dire qu'il peut lui suggérer un orgue avec toutes les subtilités d'un orgue à tuyaux. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Et effectivement, on avait assisté dans certaines paroisses du Jura au remplacement d'orgues à tuyaux par des instruments électroniques. Phénomène qui d'ailleurs n'a pas été irréversible puisqu'on a vu la plupart de ces paroisses vendre ou céder leur orgue électronique dans les années 1990-2000 pour réinstaller des orgues à tuyaux. Donc l'orgue à tuyaux avait, en tout cas jusqu'il y a peu, et je pense a encore dans certaines mesures, quelques beaux jours devant lui.
Il y a une vingtaine d'années que vous avez écrit ces ouvrages. Aujourd'hui, les choses ont quand même un petit peu changé parce qu'il y a pas mal d'orgues qui ont été restaurés, notamment l'orgue à Saint-Ursanne, beaucoup d'autres. Bon, celui-ci a Port-en-Truy il y a 30 ans, mais on sait que l'orgue de l'église Saint-Marcel à Delémont sera restauré prochainement. Est-ce qu'il y aurait de nouveau un ouvrage à écrire? Parce qu'il y a également de nouveaux organistes qui arrivent, des jeunes talents. Les choses ont tout de même pas mal évolué en 20 ans.
Oui, alors déjà dans le bouquin, le dernier bouquin sur les orgues d'Ajoie, je disais, bon, que ce soit un inventaire, c'est très bien, mais il ne faut pas en rester là. Donc, il faut ouvrir des perspectives pour que la culture de l'orgue soit non pas figée, mais en devenir. Donc, il est normal que les choses évoluent. Je ne revendique pas d'avoir un paysage organistique jurassien qui reste tel que décrit dans mes ouvrages pour mon contentement personnel. C'est évidemment pas le but. Bon, il faut aussi relativiser les choses. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de restaurations. Il y a eu aussi des orgues neufs ou neuves. Ça dépend de quel point de vue orthographique on se place. Et puis, notamment, par exemple, le nouvel orgue de Montfaucon, qui est suggéré dans le livre, mais qui est arrivé une année après le dernier bouquin. Il y a en construction l'orgue de Vic, qui sera inauguré très bientôt. Différents petits instruments qui ont été construits. Et puis, si on écarte un tout petit peu la frontière vers un bâtiment qui nous est très cher, même s'il est encore situé dans le canton de Berne, c'est évidemment le grand orgue de Bellay. Et d'ici quelques mois, l'orgue de chœur de Bellay. Alors, il y a eu quand même quelques instruments nouveaux. Mais je dirais que globalement, les grandes voies directrices étaient déjà tracées en 1999 quand s'est terminé cet inventaire. On ne peut pas dire que le paysage a été chamboulé depuis ce moment-là.
Nous allons entendre tout à l'heure Simon Péguiron qui est titulaire de l'orgue de la collégiale de Neuchâtel. Mais pour l'instant, on va l'entendre justement dans un concert important pour lui, puisque c'était son concert de diplôme le 20 juin 2006 à l'église Saint-Paul à Bâle.
Ici la musique.
Simon Péguiron, vous êtes depuis quelques années le titulaire de l'orgue de la collégiale de Neuchâtel. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment un jeune musicien Vous avez commencé par le violon, ensuite vous avez connu le piano et enfin donc l'orgue, notamment avec Guy Beauvais. Comment est-ce qu'un jeune musicien s'intéresse-t-il à l'orgue ? Quelle est la vision d'un tel instrument chez un jeune musicien ?
Évidemment, je ne peux pas parler au nom de tous les jeunes organistes, je parle qu'en mon nom propre. Pour moi, ce qui me fascine dans l'orgue, c'est... c'est le côté instrument de couleur, instrument qui permet de faire de la musique sous différents aspects, de faire plein de choses différentes, plein de répertoires différents. Et tout le monde sonore de l'orgue, ou plutôt des orgues, parce que chaque orgue est différent, c'est un domaine qui est fascinant au niveau simplement artistique et sonore, donc des possibilités qu'on peut avoir avec cet instrument.
Le monde de l'orgue est un monde un petit peu particulier.
Oui, c'est-à-dire que même parmi les musiciens, les organistes, c'est un peu des gens à part déjà. Mais c'est aussi parce que l'orgue, c'est un instrument à part. Il faut aller dans une église souvent pour avoir accès à l'orgue. La manière dont on utilise l'orgue, avec tout l'art de la registration, de comment faire parler, faire sonner un orgue, c'est assez mystérieux en général pour tous les autres musiciens. Dans le sens que si vous demandez à un trompettiste comment on joue du violon, il saura très bien vous répondre. Par contre, comment on joue de l'orgue, peut-être qu'il aura un peu moins de connaissances de ça. Donc les organistes sont toujours formés à part, ils sont dans leur milieu, dans les églises, à l'écart. Donc voilà un petit peu pourquoi je parle de monde particulier.
Le fait justement d'être dans une église, de souvent interpréter de la musique qui est consacrée à l'orgue et à l'église, ça c'est aussi particulier ?
C'est-à-dire que c'est un aspect du monde de l'orgue. Il y a aussi naturellement tout l'aspect culture, littérature, c'est probablement le plus ancien des instruments qui a sa littérature propre. À part évidemment la voix, dès la musique de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, la quantité de répertoires écrits pour orgue. Donc je dirais que la musique d'église n'est qu'une toute petite part, même si c'est une part qui a parfois un rôle important à jouer, surtout chez nous, mais c'est qu'une toute petite part de cet immense monde culturel.
Des élèves, vous en avez eu beaucoup, Georges Catin, Benjamin Guéla, Cyril Julien, ces organistes qui ont beaucoup de passion, qui ont beaucoup de grandes qualités, ça fait partie du renouveau, il y a un renouveau, l'orgue est toujours un instrument actuel grâce à ces jeunes talents.
Oui, alors je suis très très heureux que ces anciens élèves, au fond, ils vont porter la flamme un peu plus loin. Ça, c'était mon grand souci.
Benoît Berbera.
Parce que, en fait, dans la liturgie, l'orgue, il a sa place, mais on ne peut pas placer de très grandes pièces. Parce qu'il n'y a pas le temps, pour. Et puis l'orgue, il est au service de la liturgie et pas le contraire. Donc on ne va pas bloquer la liturgie pour jouer à la présentation des dons, ce qu'on appelait autrefois l'offertoire. On ne va pas jouer une pièce de 5 minutes qui bloque tout. Ça, c'est le beau travail de l'organiste. Il est au service de la liturgie et non pas le contraire. Dans les messes, on ne peut pas placer de très grandes œuvres. C'est pour ça que je suis content d'organiser ces concerts ici à Pontru, parce que c'est l'occasion de découvrir du répertoire que les gens n'entendront jamais dans les offices. Et ça, c'est très bien s'ils viennent. Comme ça, ils vont se familiariser avec tout le répertoire pour l'orgue, qui est monstrueux. Hein. Il y a des pièces depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Vous imaginez, ça fait 500 ans d'écriture, et de toutes sortes d'écritures, parce qu'en plus, les Allemands n'écrivent pas la même chose que les Français, les Français n'écrivent pas la même chose que les Espagnols, et pas la même chose que les Italiens, donc c'est monstrueux ce qu'il y a comme répertoire.
Est-ce que vous avez l'impression que le public aujourd'hui connaît bien cet instrument, s'intéresse encore à cet instrument qu'est l'orgue, parce qu'on associe l'orgue d'église à l'église, évidemment, mais il ne faut pas oublier cette culture musicale, les écrits qui existent, qui sont extraordinaires. Il y a des œuvres absolument magnifiques qu'on ne connaît pas forcément.
Oui, je suis quand même un peu pessimiste. À l'époque, mes bouquins avaient été tirés à grosso modo 1000 exemplaires chacun, et ça n'avait pas été un trop gros problème de les écouler, en tout cas pour ce qui est des Franches-Montagnes et de la Joie. Aujourd'hui, je pense qu'un inventaire comme celui-là, on devrait le tirer à peut-être 250 ou 300 exemplaires. Alors certes, les gens lisent peut-être un peu moins ou un peu différemment, mais je pense que c'est aussi le reflet que actuellement, cette culture de l'orgue n'est plus véritablement transmise, c'est-à-dire il y a rupture. Les gens que j'ai côtoyés il y a 20-30 ans se souvenaient d'avoir entendu l'orgue dans leur enfance, quand ils allaient à l'église. Ils avaient peut-être un papa ou un grand-père ou une grand-mère qui était organiste, etc. Aujourd'hui, évidemment, la culture chrétienne s'évanouit quand même un petit peu, il faut le dire. Hein, les statistiques sont là, les coefficients de fréquentation des offices le démontrent. Et puis, l'orgue demeure un instrument marginal. C'est un instrument qui peine à faire école. Les classes d'orgue ne sont de loin pas complètes. Je dirais qu'il y a 30 ans, il y avait peut-être plus d'émulation autour de l'orgue qu'actuellement. Je suis un peu pessimiste quant à l'avenir de l'orgue.
Toutefois, il y a de jeunes organistes qui sont de véritables passionnés de musique, qui ont fait de belles études, estimant évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire, naturellement, et nous avons aujourd'hui toute une génération d'organistes remarquables sur le plan technique, sur le plan musical, des organistes inventifs qui proposent aussi des répertoires un peu atypiques pour essayer d'attirer les gens vers cet instrument un peu mystérieux et parfois pas toujours très bien coté qu'est l'orgue. Bien sûr, il y a des passionnés, c'est clair, mais déjà, on se rend compte que lorsqu'il s'agit de jouer, par exemple, dans le cadre de la liturgie, il y a une sélection qui s'établit où il y a un déchet, si on peut dire, entre les gens qui s'intéressent à l'orgue et ceux qui ont effectivement envie de jouer pendant la messe. C'est vrai que ce n'est pas le seul moment d'entendre l'orgue, mais c'est quand même un moment privilégié. Et puis, bien sûr, on n'empêchera pas les gens de se passionner pour cet instrument qui, encore une fois, est extraordinaire. Mais le problème, ce n'est pas les organistes, ce n'est même pas tellement les facteurs d'orgue, c'est le public. Et si le public ne vient pas, malgré la qualité, l'originalité des organistes, c'est donc qu'il y a un problème de ce côté-là.
Pour en revenir aux jeunes organistes, on en connaît quelques-uns dans l'arc jurassien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous et qu'est-ce qu'il y a comme bonheur particulier à jouer sur un tel instrument, un orgue d'église, qu'il soit à Neuchâtel ou Locle ou d'autres, hein. Il y en a quelques belles pièces dans le Jura également.
Ça dépend évidemment de où on joue, sur quel orgue on joue. Alors c'est clair que dans la région, dans l'arc jurassien, en Suisse romande d'une manière générale, on a quelques exemplaires d'orgues qui sont absolument magnifiques. Évidemment, moi je pense en premier lieu à l'orgue de la collégiale de Neuchâtel, dont je suis le titulaire. C'est peut-être un petit peu un effet de perspective, mais c'est vrai que c'est un instrument que je considère comme une réussite absolument exceptionnelle. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et chaque fois qu'on aborde un nouvel instrument, on doit se réadapter, on doit réapprendre à l'utiliser, trouver quel répertoire on va jouer dessus, comment le faire sonner au mieux. Et tout cet aspect, justement, est fascinant. Je ne sais pas si ça l'est plus pour un jeune organiste ou pour un organiste avec une certaine pratique. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un domaine fascinant. Et pour moi, qui me considère plutôt comme un musicien qui joue de l'orgue que comme un organiste qui fait de la musique, je dois dire que c'est une manière, justement, d'aborder la musique où on est particulièrement créatif, où on se contente pas de jouer, d'interpréter une pièce qui a été jouée des centaines de fois, mais on a aussi vraiment un travail de création à l'instrument pour faire parler l'instrument, pour faire sonner l'instrument.
Nous sommes toujours en compagnie de Simon Péguiron. Avec lui, on parle de l'orgue de la collégiale de Neuchâtel, un orgue qu'il connaît bien puisqu'il en est le titulaire. Il a peut-être quelques petites particularités, cet orgue, puisqu'il est assez récent.
Il y a beaucoup d'orgues récents, notamment dans à peu près toutes les grandes cathédrales suisses. On a un orgue de... Zurich et Genève, c'est vrai, sont un peu plus anciens, datent des années 50, mais sinon, dans toutes les grandes cathédrales, on a des orgues des années 2000, enfin voilà. Mais je trouve que c'est souvent des grosses machines. Celui de Neuchâtel a vraiment une âme bien particulière, dans le sens que c'est un orgue de couleurs. Chaque jeu a été harmonisé de manière à avoir une couleur propre. Un orgue de détail aussi, qui ne s'utilise pas comme un gros machin, qui s'utilise vraiment comme un instrument en orchestre, un instrument de détail où on choisit les timbres, on choisit les couleurs. Probablement d'ailleurs que c'est le reflet de la vision de son concepteur, donc qui est Guy Beauvais, avec qui j'ai eu la chance d'étudier, et qui avait vraiment cette vision d'orgue de détail, d'instrument pour colorer la musique.
La patte de Guy Beauvais est importante sur un tel orgue, celui de la collégiale de Neuchâtel.
Je ne veux pas négliger le rôle des facteurs d'orgue, parce que c'est évidemment essentiel d'avoir un facteur d'orgue de qualité pour obtenir un résultat comme ça. Et ils font un travail absolument remarquable, la manufacture de Cesar Saint-Martin. Mais je pense qu'en l'occurrence, pour l'orgue de la collégiale de Neuchâtel, ils ont aussi bénéficié du petit plus, du trait de génie, du concepteur, qui avait vraiment dans la tête un concept, justement, c'est-à-dire une idée artistique précise de ce qu'ils voulaient obtenir. Et le résultat, justement, a été particulièrement à la hauteur de son idée.
Par ici, la musique.
Benoît Berbera, vous faites beaucoup pour la promotion de l'orgue. C'est important. Est-ce que vous aviez l'impression, à un moment donné, que l'orgue était en danger et qu'on risquait d'oublier la splendeur de l'orgue ?
Oui, ça c'est un petit peu... Enfin, je peux parler à l'imparfait maintenant, puisqu'il y a des jeunes qui se mettent à faire des concerts, et puis j'espère qu'ils en viendront. Comme la portion de l'orgue dans la liturgie n'est pas très grande, il faut quand même reconnaître qu'il y a un peu moins de fidèles dans les temples et dans les églises catholiques que quand j'étais enfant. Ça, il faut le dire. S'il y a moins de fidèles qui entendent l'orgue, qui a une portion pas très énorme dans la liturgie, le danger, c'est que ben, l'orgue disparaisse. Enfin, la connaissance de l'orgue disparaisse. Mais je crois que ici, dans le Jura, c'est bien parti, parce que Christophe Chetla, qui était aussi un de mes anciens élèves de Lémon, il faisait un concert, en tout cas par année, régulièrement, et il y avait beaucoup de gens. Il faut créer l'habitude. Il faut juste créer l'habitude, et puis et ça fait un peu boule de neige après.
Moi, je me souviens que Sarah Gerber avait organisé un concert avec un Américain qui s'appelait Carpenter, qui est un jeune organiste qui vient et qui amène de la musique moderne à l'orgue. Il y a aussi tout de même cette tendance, cette volonté d'essayer d'allier l'instrument à la musique actuelle.
Non, bon, j'ai écouté ce fameux organiste américain Carpenter Cameron. Là, il est venu à Saint-Hilaire aussi. Pour le monde de l'orgue, c'est juste un cadeau parce que il fait pas n'importe quoi. Il joue des grandes pièces du répertoire et il les joue très très bien. Et puis, alors dernièrement, j'ai appris qu'il s'est fait faire un orgue parce que pour lui, le problème quand tout le monde voulait l'inviter partout dans tout le monde, aux États-Unis, en Allemagne, partout en Europe, tout le monde voulait l'inviter pour donner des concerts. Le problème de l'organiste qui fait une tournée de concerts, c'est d'apprivoiser l'instrument sur lequel il arrive.
C'est encore plus dur que pour un pianiste.
Ah ben oui, parce qu'actuellement, il n'y a pas deux orgues qui se ressemblent. Pour lui, le problème, maintenant, quand il fait ses tournées d'orgue, il tombe chaque fois sur une console qui est différente. Alors, il en a assez de perdre du temps. Mmh. Et il s'est fait faire un immense orgue. Et il promène ça avec comme Johnny Hallyday, dans des camions de 40 tonnes. Mais ce n'est pas des tuyaux, c'est des immenses colonnes acoustiques. Parce que pour lui, la musique, c'est plus important que l'orgue sur lequel il arrive. Bon, je peux comprendre, mais donc ça veut dire qu'il se prive aussi de découvrir la personnalité de chaque orgue, parce qu'il fait ses tournées avec son orgue.
Voilà, c'était cette émission consacrée à quelques orgues et quelques organistes de la région, avec entre autres Georges Catin, que vous avez entendu également jouer dans un concert tout récent en l'église Saint-Pierre à Pantruis. Nous étions également en compagnie de Benoît Berbera, qui lui a également joué sur l'orgue de l'église Saint-Pierre à Pantruis. On a entendu Rudolf Meyer dans un extrait d'un CD Orgue du Jura. Il jouait là sur l'orgue de la collégiale de Saint-Ursanne, et puis Simon Péguiron, le titulaire de l'orgue de la collégiale de Neuchâtel, quelques extraits de son concert de diplôme en 2006 à l'église Saint-Paul à Bâle. Et nous avons terminé à l'instant avec cet organiste américain Cameron Carpenter, un extrait de son album Revolutionary. C'est ainsi que s'achève par ici la musique pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec d'autres musiques et d'autres invités. À bientôt.